Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de Par les temps qui courent, qui écoute les artistes pendant une heure. Ce soir, on est ravis de recevoir deux membres des Last Poets.
Un tango, une danse, un baiser.
Et du bouta, pépété, pépété.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
Marie Brichou.
Ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
Il y a quelques mois, nous recevions à ce micro le rappeur français Rossé venu nous parler de son projet Par les damnés de la terre. Pendant plusieurs années et dans différents pays, il s'est attaché à récolter des chants de révolte interprétés en français par des femmes et des hommes qui croyaient avec force dans l'impact du poème et portaient ainsi la voix de personnes en lutte de tous horizons. À propos de ce projet, Rossé disait « Voilà, je voulais retrouver un équivalent de ce que sont les Last Poets pour le hip-hop américain. En quelque sorte, moi je voulais mettre à jour les Last Poets francophones. » C'est bien que quand nous avons appris la venue des Last Poets à l'occasion du festival Banlieue Bleue, nous nous sommes dit qu'il fallait lancer une invitation et vous voilà tous les deux, Oumar Bin Hassan et Aboudioum Oyewole. Bonsoir à tous les deux et soyez les bienvenus.
Merci beaucoup.
Ah, quelques mots en français. Votre dernier album en date est sorti en 2018. Il s'appelle Understand What Black Is. Et je dis que les personnes qui chuchotent et qu'on entend s'appellent Xavier Combe et Marguerite Capel. Je les salue tous les deux et je les remercie d'être là. On commence par de la musique.
The way over, the way out, the bridge. The way over, the way over, the way out, the bridge.
I'm in the jungle, going through the bushes, stepping over rocks, passing by the animals, resting against trees in search of the bridge that will take me to the other side. I was told there was a bridge made out of wooden rope. They say it is safe, strong enough to withstand my weight. It leads to the other side, a place unlike this place, a place of peace and promise, of calm tides and bright sun, where people greet each other with a smile, where children can play without being hit by stray bullets. There are no
something we haven't heard a long time. Flowers, candy.
Ça fait longtemps qu'on n'avait pas écouté une si bonne musique. Et puis en plus, ici, on a des fleurs, du chocolat. Qu'est-ce qu'on a bien?
Et puis, il y a le morceau qui ouvre. Ils parlent du pont. Trouver le moyen de passer de l'autre côté. Voilà une expérience de l'autre côté que nous sommes en train de vivre. Cette femme que je n'ai jamais rencontrée me ramène des fleurs. Une autre femme que je n'ai jamais rencontrée.
Has a smile that will brighten up a cloudy day.
Un sourire capable de réchauffer une journée nuageuse.
And she's got dimples.
Et des fossettes.
It's great because we were just been through something at the airport that just.
Et puis c'est chouette parce qu'on était à l'aéroport. Et puis ça s'est pas très bien passé.
Our consideration and our sense of human being.
Vraiment ça, ça réjouit.
Made us mad for a minute, but then to come here and like I say, the flowers.
On nous a maltraité à l'aéroport, mais ici les fleurs, le chocolat, quel accueil. Mais c'est comme ça que les êtres humains doivent être. Avec les autres, il faut partager, il ne faut pas être méfiant les uns des autres, il faut partager les uns avec les autres. Ça, c'est absolument merveilleux de commencer cette émission de radio comme ça. Mais moi, j'ai un interprète homme et ça me déplaît un petit peu, je dois dire, je suis un peu jaloux.
Ok, moi je suis hyper à l'aise avec le fait que ce soit un homme qui vous traduise et une femme qui vous traduise tous les deux. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ce qui était très plaisant, en écoutant tous ensemble cette musique, c'est que, et l'un et l'autre, vous étiez très concentrés et complètement directement dans la musique, comme si ce n'était pas forcément votre musique, mais comme si vous étiez complètement plongé dedans. Ça veut dire que le plaisir d'écouter de la musique pour vous, il n'a jamais terminé, il n'a jamais eu de fin. La musique a toujours été quelque chose qui nous motivait, qui motivait les Noirs en général. Parce que l'essentiel de ce qu'on connaissait, qui faisait partie de notre culture avant l'esclavage, a été effacé. Et tout ce que nous avions, c'était ce qui était inné d'un point de vue vraiment biologique, qui était en nous, on ne pouvait compter que là-dessus. La musique fait partie de nos vies. Donc même à l'époque où on ramassait, on récoltait le coton, on inventait des chansons. On parlait de ces chansons des champs, justement des plantations. On n'a jamais cessé d'être musicaux, d'être des gens musicaux. Pour nous, la musique, c'est comme faire une prière.
C'est là que vient notre force, c'est notre force.
Tout à fait notre pouvoir.
Omar
et moi, nous avons grandi dans une ville où il y avait des artistes de jazz fantastiques qui se sont emparés d'instruments européens et les ont complètement renversés. Le saxophone n'était pas censé sonner comme ça jusqu'à ce qu'il y ait John Coltrane. La trompette,
Miles Davis,
l'a complètement emmené ailleurs, transporté ailleurs, Thelonious Monk avec le piano. C'est tout un nouveau monde qui se découvrait grâce à ce génie musical. Et je suis fier de faire partie de cette famille.
Oui, John Coltrane, très bon exemple. J'écoutais du John Coltrane l'autre soir. C'était au festival de Newport en 63. Alors, il y a des gens qui parlent de Elvin Jones, le batteur. Mais... Ah oui, Elvin Jones, il n'était pas mauvais hein, quand même. Hein, non plus. Il ne faut pas l'oublier, lui, non plus. Alors, Elvin Jones, il était d'une rapidité incroyable. John Coltrane savait choisir les gens pour l'accompagner, qu'il s'agisse de pianiste, de bassiste ou de batteur. Qu'est-ce qui était bien entouré? Je dois dire que j'écoute le festival de Newport en 63 tous les matins. Et mon père, moi, était musicien. Il jouait de la trompette, il m'a appris à faire de la musique, il enseignait la musique. Et parfois, lorsqu'un groupe, un big band venait en groupe, on lui demandait de participer à la performance. Et il y a des gens comme Duke Ellington qui ont fait appel à lui. En réalité, sa mère ne croyait pas vraiment en ses talents de musicien et elle ne l'a jamais vraiment encouragé. Elle lui trouvait toujours autre chose à faire. Mais ça lui a brisé le cœur. Et ça a eu un mauvais impact sur lui. Mais cette musique qu'il jouait, eh bien, elle est en moi. Et Il y a 3-4 ans,
et
je me suis recueilli sur ces souvenirs.
Et vous savez, moi, ça fait des années maintenant que j'écoute Omar. Quelque chose que je peux dire, c'est qu'il a reproduit le son de son père, mais sous forme de poésie, parce que sa voix ressemble à une trompette. Il fait des choses avec sa voix que vous n'entendrez chez aucun autre poète sur cette planète. La façon dont Omar fait de la poésie, interprète la poésie, il a laissé la trompette de son père atteindre son âme. Sans même en être conscient, sans même le savoir, il représente son père quand il est sur scène. Et il fait savoir à tout le monde à quel point son père était un formidable artiste parce que cette musique vient du fond de lui. Quand les années 60 sont arrivées et qu'il y a eu ce nouveau style de poésie, beaucoup de personnes ont essayé de se copier et de nous copier nous parce que les Last Poets, on était tout neuf, l'avant-garde du mouvement poétique. Et il y avait beaucoup de gens qui exagéraient ce qu'on faisait, qui poussaient ce qu'on faisait à l'exagération, et ils exagéraient toujours la façon de faire d'Omar, en fait, pas la mienne.
Il
y a quelqu'un qui s'appelle Dee Knowledge, Dr. Gilbert, qui à l'époque était sur scène,
et
il faisait toujours des poèmes qui étaient des imitations d'Omar. Moi, je détestais ça. En fait, c'était vraiment, il exagérait complètement son imitation. Nous avons reçu en héritage une manière de communiquer, de nous exprimer, de communiquer avec notre peuple et qui touche aux racines de notre peuple. Et quand on en parle aujourd'hui, ça fait 50 ans que l'on porte ce flambeau-là. C'est incroyable. Parce qu'il y a toujours beaucoup d'amour là-dedans. Nous n'avons pas disparu avec la nuit.
Apprécier à nouveau l'influence de mon père, parce qu'un soir, j'ai failli le tuer. Parce que lui, il était frustré. Il n'arrivait pas à faire ce qu'il voulait. Ma grand-mère l'empêchait d'avancer musicalement. Moi, ça m'énervait, ça aussi. Et moi, je m'étais emparé d'une petite hache et j'allais lui faire la peau. Parce que j'en pouvais plus de ses frustrations. Bon, deux, trois jours après cet incident, ma mère est arrivée. Elle m'a vu encore avec la hachette à la main. Ça a duré un moment. Et puis, moi, j'avais un malaise très profond, en réalité. Et il y avait cette rivalité, cette tension entre ma grand-mère et mon père, parce que moi, si j'avais eu autre chose qu'une hachette, si j'avais eu un flingue, c'est sûr que j'aurais tué mon père, hein, parce que j'en pouvais plus. Mais il y avait cette tension permanente. Et puis, finalement, j'ai pu me rendre compte que ça n'allait pas. J'aimais tellement la musique. Et mon père, lui, était tellement frustré. Il aimait Bill Epstein, il aimait les grands jazzmen, les grands pianistes, Errol Garner, par exemple. Il m'en parlait. Je me souviens, j'étais en CM2, je prenais des cours de trompette. trompette. Mais moi, j'avais la trompette, mais j'avais un frère, lui, qui s'en sortait beaucoup mieux que moi. Alors lui, il savait souffler. Petit à petit, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas que je fasse de la musique, surtout pas pour imiter mon père, mais qu'il fallait que je sois davantage un poète, et ainsi de suite. Et mon père m'a enseigné le fait qu'il fallait que je sois moi-même. Et du reste, comme ça, je suis de nouveau en paix, et j'ai une meilleure relation avec mon père disparu, parce que je fais ce que je dois faire. Parce que c'est vrai que la poésie, c'est une manière d'exprimer notre passé, notre patrimoine, noir, soit la musique ou de la poésie. Et notre musique, c'est le blues. Par exemple, et nous avons tout un patrimoine, nous venons d'un historique de la musique. Nous avons connu l'oppression, le mauvais traitement. Et c'est vrai que depuis 50 ans, on exprime cela. Et parfois, nous-mêmes, nous sommes un peu frustrés parce que on n'apprécie pas, on nous apprécie pas notre juste valeur. Alors que nous, on sait ce que l'on vaut. Hein. Ça fait longtemps qu'on est au travail. Hein. Mais en réalité, voilà deux hommes noirs, les Last Poets. Et nous savons d'où on vient. On a un passé très riche. Mais il faut qu'on continue à faire passer ces messages. Et on s'y tient.
Vous savez, j'ai eu l'occasion d'entendre un de mes jeunes enfants adoptifs, fils adoptifs, jouer une chanson la semaine dernière. Je n'ai même pas encore parlé avec Omar. K.O.S., il s'appelle, c'est un rappeur connu. Il nous a même dit il y a quelques années, Omar et à moi, à Chicago, que puisqu'il allait devenir quelqu'un qui allait être embauché dans une compagnie de production, enfin dans une société de production de disques, il allait être en mesure de nous faire un album. Ce soir-là, la salle était pleine et le public est devenu dingue. Et j'ai dit à Omar, j'ai tellement hâte en fait qu'il nous appelle. Il ne l'a jamais fait. Mais ça avait l'air bien de dire ça devant le public. Mais il a dit une chose récemment. Il a dit, nous devrions tous avoir honte de ne pas nous être souciés davantage de The Last Poets que nous l'avons fait. Oui, il l'a dit, Omar, je t'assure, ça m'a complètement fait tomber de ma chaise. Il faut vraiment que tu entendes ce discours. Il a dit, nous ne leur avons pas rendu le respect qu'ils méritaient et c'est une problématique majeure du monde du hip-hop. Et vraiment, j'ai été complètement estomaqué qu'il dise ça. Il nous rendait cet hommage vraiment majeur en disant, voilà, ce sont eux les gens que nous avons copiés et nous le savons tous et nous devons leur rendre hommage et leur accorder ce respect-là. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, c'est vraiment KRS qui dit ça? Et mon fiston me dit, oui, c'est bien lui. Et qu'est-ce qui se passe alors? C'est une révélation tardive?
Oui, on le connaît tous les deux. On connaît KRS. C'est étonnant d'entendre ça.
Ce que ça m'a aussi fait réaliser, c'est que quand on entend pendant longtemps quelqu'un, parce que Omar et moi, on est là depuis tellement longtemps, on est beaucoup là depuis beaucoup plus longtemps que ce à quoi tout le monde pouvait s'attendre, parce que en fait, aucun de nous n'a jamais eu peur de remettre en question les choses, de relever des défis et de façon complètement ouverte. Lui a été confronté aux drogues, moi j'étais confronté à la prison, on avait tous les deux énormément à perdre. On a tous les deux traversé des changements, des évolutions pour devenir les hommes que nous sommes aujourd'hui. Mais en même temps, nous avons aussi des enfants qui ont voulu nous rendre fiers. Nous avons des enfants qui sont vraiment des personnes vraiment uniques sur Terre. Et je pense que nous pouvons vraiment nous en réjouir. Nous en sommes très heureux. Parce que nos enfants vraiment s'en sortent tous très bien. Et Omar et moi, nous avons été présents pour eux. Nous avons été là. Et nos enfants savent qui sont leurs papas. Et savent que leur papa les aime. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que comme Omar l'a dit au sujet de son père, la vérité, c'est que moi, j'ai un homme qui m'a élevé, mais qui n'était pas mon père biologique. Mais il m'a donné davantage d'outils pour devenir un homme. Il m'a donné tous les outils pour devenir un homme, et je l'aimerai toujours pour ça. Même si la vérité, c'est que je n'ai jamais vu mon véritable père. Je n'avais pas envie de reproduire ça.
Oui, moi, je parle beaucoup de mon père, mais... Mais tu n'as jamais vu ton vrai père, mais quel retentissement ça a sur toi?
Moi, pour tout vous dire, à chaque fois que je pense au fait que je ne l'ai jamais rencontré, ça reste en fait un joli mystère que je garde en tête. Et en fait, je peux faire tout ce que je veux. En fait, parce que du coup, je n'ai pas de rôle négatif à me représenter. Daddy Joe, l'homme qui m'a élevé et qui m'a servi de père adoptif, c'était un monstre. Moi aussi, j'ai voulu tuer Daddy Joe de la même manière qu'Omar a voulu tuer son père. Mais à presque 60 ans, je l'ai vu faire une chose. Nous avions un locataire dans notre immeuble qui devait des loyers à mon père. Et mon père a dit à ma mère, quand M. Kenna rentrera du travail, dis-lui que je veux mon loyer cette semaine.
Et je ne joue
pas. Et je ne plaisante pas. Ma mère a dit, je lui dirai, Joe. Et donc, quand le locataire est venu, ma mère lui a dit, Monsieur Kenna, Joseph Davis m'a dit qu'il voulait de vous dire qu'il voulait le loyer d'ici la fin de la semaine. Et Monsieur Kenna a répondu, dites à votre mari de me baiser le cul.
And my mother said, I'll tell him.
Qui peut aller se faire voir.
She didn't say anything else.
Et ma mère a répondu, oui, je passerai le message.
Home from work, and he did
construction
work. Et donc, quand
Daddy Joe est rentré du chantier, c'était son travail, il travaillait sur les autoroutes, construisait les autoroutes à Long Island,
in Oyster Bay,
à Oyster Bay,
way out there in Long Island and Queens.
Entre Long Island et le Queens.
And he had tar.
Et donc il avait ses chaussures du chantier, toute sale, il était fatigué. Et ma mère lui a dit, bon, j'ai parlé à M. Kenna, et il m'a dit d'aller te faire voir.
Daddy Joe, I had never heard him say a word.
Et Joe a répondu, il n'a même pas prononcé un mot, il est descendu dans l'appartement du locataire. À ce moment-là, mon père avait 58 ans. Alors que M. Kenna avait peut-être 31 ans, 32 ans, c'était un homme jeune, costaud. Et donc moi, je me suis dit, bon, bah, Daddy Joe va se faire botter les fesses aujourd'hui. Et j'en étais ravi parce qu'il n'était vraiment pas gentil. Et je me suis dit, bon, bah, cet homme plus jeune à qui il réclame son loyer va lui mettre une bonne raclée. Et j'ai entendu tout ce bruit. J'en projetais contre les murs, des meubles qui volaient. Et puis j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais. Je pense qu'on a tous déjà vu quelqu'un. Est-ce que quelqu'un en fait a réellement vu quelqu'un voler dans un escalier, être littéralement projeté dans un escalier et projeté en fait vers le haut? La plupart des gens, du temps, les gens sont jetés en bas des escaliers. Là, il l'a carrément remonté de toute une volée de marches.
Of killing Daddy Joe.
Et là, j'ai complètement oublié toute mon idée de m'en prendre un jour à Daddy Joe. J'ai su que ça ne se produirait jamais. Et voilà le genre de pouvoir qu'avait cet homme, battre ce jeune homme qui était pourtant très costaud et qui avait la moitié de son âge. Donc moi, je ne cherche pas de noise à Daddy Joe. Il était vraiment très en colère.
Southern strength that I didn't,
mais il avait
I didn't
une force que j'ignorais.
Il y a pas mal d'hommes noirs qui étaient comme ça. Oh, yeah. Moi, ce que j'ai décrit, c'est une sorte de profil qu'on retrouve chez d'autres.
Yes.
Oui, parce que c'était un coup d'adrénaline, en fait, qui d'un seul coup donne une force. J'ai même pas vu ça dans un dessin animé, ce mouvement dans l'escalier.
En fait, à écouter vos textes, on se rend compte que la violence a une place un peu paradoxale. C'est qu'à la fois, vous croyez beaucoup au poème, vous croyez beaucoup à l'amour, mais en même temps, quand il est question de révolution, eh ben, vous êtes aussi là pour dire une certaine violence à laquelle vous croyez, pour décrire une certaine violence de la ville. Alors, on ne sait jamais exactement quelle place occupe la violence dans votre vie et dans vos cœurs.
The poetry comes out of life.
La poésie prend sa source dans la vie.
It comes out of living. You know,
elle vient du fait de vivre. Je pense que j'ai commencé à écrire des poèmes parce que j'essayais d'être un amant, un amoureux. J'aimais toujours des filles plus âgées que moi. Alors je me disais que si je leur écrivais un poème, je les impressionnerais peut-être davantage que juste en chanson, en chantant un truc mignon. Mais je pense en fait que la poésie est quelque chose de si profond qu'il faut mûrir d'une certaine façon pour comprendre ce qui fait un poète. Et ça vient avec tout un tas de choses qui doivent arriver dans une vie. Je ne pense pas qu'on puisse réellement définir un chemin très clair pour devenir poète. Je pense que la personne qui essaie de vivre sa vie et qui traverse différentes étapes de changement doit trouver une manière de vivre malgré ces changements, et la poésie est un chemin, un moyen extrêmement intéressant de se parler aussi à soi-même. Il y a des personnes qui écrivent des journaux intimes. Alors que les poètes écrivent aussi sur des leçons de vie. C'est une façon de montrer, de donner un exemple, des échantillons, un goût de ce que c'est que de vivre et de traverser des conflits.
Oui, c'est vrai. Les hommes noirs, surtout ceux qui ont des pères absents, trimballent une espèce de douleur. De temps en temps, mon père me prenait la main, on allait marcher, mais malheureusement, il le faisait trop rarement. Et moi, je lui en voulais de ne pas le faire assez souvent, parce que j'avais des copains qui allaient se promener avec leur père, qui le tenaient par la main, et moi, je voulais que mon père fasse ça plus souvent. Il était constamment en lutte avec ma mère, et ainsi de suite. Et moi, j'ai eu cette envie de le tuer, j'avais 11 ans, mais d'où me vient cette violence en moi? Je me pose encore la question. Mais c'est vrai que quand on est un jeune homme, on recherche la figure du père pour nous soutenir. Mais nous, hommes noirs qui n'avons pas eu de père, on a vécu avec beaucoup de colère en nous-mêmes. Et puis à la fin de mon adolescence, je voyais des gars autour de moi qui étaient plus costauds que moi, mais il a fallu que je me défende. Donc, peu importe la force des autres, moi je connaissais la douleur, donc la douleur physique, même un gros gars qui voulait me menacer, moi ça me faisait pas peur, vous voyez. Donc, il y a des gens qui disaient, mais t'es complètement dingue toi. Mais en réalité, j'avais cette douleur en moi, cette souffrance en moi, et même inconsciemment aujourd'hui, on ressent ça, et c'est de là que vient cette violence qu'on veut faire sortir de nous. Le père joue un rôle fondamental. Et c'est une espèce de douleur intérieure que de l'évoquer parce qu'on vit avec. Dans les communautés noires, moi je comprends pourquoi il y a cette violence, mais les dealers de drogue, c'est pas l'argent qu'ils cherchent, ils veulent pouvoir s'occuper de leur mère. Et quand ils voient leur mère souffrir, parce qu'elle peut souffrir aussi, et bien ils veulent lutter contre cela et aider leur mère et le reste de leur famille aussi.
You know, learning the streets is about looking out for mama. And most
il faut s'occuper de sa mère. Et c'est ça qu'ils font, les dealers dans les rues de Baltimore. En réalité, bon, d'accord, ils gagnent du fric et c'est comme ça qu'ils vivent, mais il y a un rapport au père et le besoin de protection de la mère qui joue un rôle très important. Alors évidemment, les traits de dealers de drogués et ainsi de suite, mais en réalité, ils veulent s'occuper de leur famille. Donc, on retrouve ça chez beaucoup d'hommes noirs. Et de manière inconsciente, on essaye de compenser ce que nos pères et grands-pères n'avaient pas. On veut avoir de l'argent, on veut une belle voiture, on veut avoir une vie où on aura ce qu'ils n'avaient pas. Vous voyez, c'est ça qu'on veut. Être un homme noir aux États-Unis, ce n'est pas un sujet à rigolade, hein. C'est pas facile du tout. Alors, on a nos façons de se défendre, mais il faut qu'on avance à notre façon. Et je peux vous dire que nous, on a choisi une voie et on s'y est tenu parce qu'on croyait qu'on faisait quelque chose de bien. Et c'est pas facile non plus, hein.
Oui, c'est très difficile.
We have to maintain a certain kind of inner strength.
Mais il faut qu'on continue à avoir une force intérieure qui n'est pas toujours facile à garder. Mais ce que je peux dire, c'est
qu'Omar
et moi, on a eu de la chance parce qu'on a toujours rencontré des gens, on est toujours tombé sur des gens qui nous ont apporté ce soutien-là, des gens dont on n'aurait jamais rêvé, qui étaient là et qui s'occupaient de nous. Je pense que nos dieux, nos croyances et la puissance de cette vie et le respect que nous pouvons avoir aussi pour eux, de même que nous en avons pour nos ancêtres, ça c'est quelque chose qui est très important aussi parce que c'est une part importante de notre histoire. Je ne serais pas là sans mes grands-parents et sans toutes les autres personnes qui étaient là avant moi. Et je tiens quelque chose d'eux que je vais à mon tour passer, transmettre. Donc c'est une histoire incroyable, c'est vraiment l'histoire américaine la plus emblématique en même temps. Car l'Amérique a pris ces morceaux de charbon et a mis une pression incroyable sur eux jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'autre choix que de mourir ou de se muer en diamant. Donc il y a beaucoup de diamants noirs en Amérique à cause de cette pression qui a été mise sur nous, à laquelle on a été confrontés, rien que d'essayer de vivre en Amérique. On parle toujours du contexte racial, la race joue un rôle là-dedans, nous le savons, mais la vérité, c'est en tout cas mon sentiment, et depuis quelques mois notamment, c'est que l'Amérique souffre surtout d'une forme d'immaturité. Je pense que l'Amérique n'est qu'un enfant qui refuse de prendre ses responsabilités et de montrer de la considération pour ceux qui l'ont tant aimé. Les Noirs n'ont rien fait d'autre, n'ont pas réagi autrement vis-à-vis des Blancs que de leur apporter de l'amour, de les rendre riches, de leur donner de l'importance. Il y a des millions de Noirs qui récoltaient le coton, le tabac pour les Blancs, pour que les Blancs s'enrichissent. Et on n'en a jamais touché un centime. Et ça pendant 400 ans. Et le pays continue à vivre sur cette richesse-là. Les Rockefeller, etc., ce sont ces riches qui sont toujours là avec les poches pleines. Et c'est vraiment un scandale parce que on les a traités avec humanité alors qu'eux nous ont traités avec exactement l'inverse de l'humanité. Nous leur avons témoigné de l'amour et eux nous ont témoigné de la haine. Et nous nous sommes mis en quatre et nous avons rendu nos vies complètement misérables. Quand quelqu'un est complètement acculé et qui doit vous faire la cuisine, nourrir vos enfants au sein, construire vos maisons, se soucier de votre bétail et coucher avec vous contre son gré, l'époque, il prenait un gamin de 10 ans et si le maître avait une fièvre, par exemple, il prenait un gamin noir, il le mettait au pied de son lit et il le faisait dormir là et il posait les pieds sur cet enfant pour que la fièvre quitte son corps pour le corps de l'enfant noir. C'était quelque chose qui était pratiqué dans le Sud pendant l'esclavage. Quand j'ai entendu cette histoire, ça m'a fait pleurer. Parce que je sais que tout ce qu'on traverse, effectivement, passe par vos pieds. C'est de la réflexologie, en fait. Il suffit de vous masser les pieds pour pouvoir vous donner une migraine, par exemple. Tous les points de pression sont là, aboutissent à vos pieds. Et donc, faire une chose pareille, en sachant parfaitement que cette fièvre va quitter le corps de cet homme pour intégrer celui de l'enfant, ça, c'est le mal incarné.
France Couture, en étant qui court.
Niggas are scared of revolution. But niggas shouldn't be scared of revolution. Because revolution is nothing but change. And all niggas do is change. Niggas come in for murk and change into pimping clothes. They hit the streets to make some quick change. Niggas change their hair from black to red to blonde. And old black hair that looks will change. Niggas kill other niggas just because one didn't receive the correct change. Niggas change from men to women, from women to men. Niggas change, change, change. You hear niggas say, things are changing, things are changing. Yeah, things are changing. Nigga things into black nigga things. Black nigga things that go through all kinds of changes. The change in the day that makes it rant and rave. Black power, and the change that comes over them at night as they sigh and moan. Life dies. Ooh, life dies. Niggas always going through bullshit change. But when it comes for real change, niggas are scared of revolution. Niggas are actors. Niggas are actors. Niggas act like they're in a hurry to catch the first act of the great white hope. Niggas try to act like Malcolm. And when a white man doesn't react toward them like he did Malcolm, niggas want to act violently. Niggas act so cool and slick, causing white people to say, what makes you niggas act like that? Niggas act like you ain't never seen nobody act before. But when it comes to acting out revolution, niggas say, I can't dig in action. Niggas are scared of revolution. Niggas are very untogether people. Niggas talk about getting high and riding around in L's. Niggas to get high and ride to hell. Niggas talk about pimping, pimping that, pimping what? Pimping yours, pimping mine. Just to be pimping is a hell of a line. Niggas are very untogether people. Niggas talk about the mind, talk about my mind stronger than yours. I got that bitch's mind uptight. Niggas don't know a damn thing about the mind, but they'd be right. Niggas are scared of revolution. Niggas fuck. Niggas fuck, fuck, fuck. Niggas love the word fuck. They think they're so fucking cute. They fuck you around. The first thing they say when they're mad is fuck it. You play a little too much with them. They say fuck you. When it's time at TCB, niggas are somewhere fucking trying to be nice to them. They fuck over you. Niggas don't realize while they're doing all this fucking, they're getting fucked around. But when they do realize, it's too late. So niggas just get fucked up. Niggas talk about fucking, fucking that, fucking this, fucking yours, fucking monsters, not knowing what they're fucking for. Ain't fucking for love and appreciation, just fucking to be fucking. Niggas fuck white thighs, black thighs, yellow thighs, brown thighs. Niggas fuck ankles when they want out of thighs. Niggas fuck Charlie, Linda, and Sue. And if you don't mind out, niggas will fuck you. Niggas would fuck fuck if it could be fuck. But when it comes to fucking for revolutionary causes, niggas say fuck revolution. Niggas are scared of revolution. Niggas are players. Niggas are players, are players. Niggas play football, baseball, and basketball while the white man is cutting off their balls. When the niggas play ain't tight enough to play with some black thighs, niggas play with white thighs to see if they still have some play left. And when ain't no white thighs to play with, niggas play with themselves. Niggas tell you they're ready to be liberated, but when you say, let's go take our liberation, niggas reply, I was just playing. Niggas are playing with revolution and losing. Niggas are scared of revolution. Niggas do a lot of shooting. Niggas do a lot of shooting. Niggas shoot off at the mouth. Niggas niggas shoot boo, niggas shoot craps, niggas cut around the corners and shoot down the street, niggas shoot sharp branches at white women, niggas shoot dope into the arm, niggas shoot guns and rifles on New Year's Eve, a New Year that is coming in, but white police.
Marie Bouchot, Yvette, The Last Poets.
On a écouté tout à l'heure un titre de votre dernier album qui date de 2018, et ça c'est vraiment un titre qui date du tout début des années 70. En écoutant le morceau, vous étiez concentrés l'un et l'autre, Oumar Bin Hassan et vous-même, Abou Dioum Oyewole, sur le jeu de percussion, en disant en fait, il y a vraiment un jeu qui est extrêmement puissant et nécessaire entre la partition percussive et la partition des mots, quoi, et que les deux vont vraiment ensemble.
Yeah, well, we went through a host of.
Eh bien, nous avons traversé. Nous avons essayé tout un tas de percussionnistes. Nous avons fait défiler toutes sortes de percussionnistes avant de choisir Elijah. Mais une chose qu'il faut dire à son sujet, c'est que tous les poèmes que vous entendez, il a créé un rythme différent pour chacun de ses poèmes. Une autre chose à son sujet, il est mort depuis 20 ans maintenant, même plus que ça, 30 ans.
Elijah, if you had a brand new poem,
mais si vous lui apportiez un poème tout neuf que vous aviez envie d'intégrer au programme des Last Poets,
get on stage and read your poem,
il fallait monter sur scène, lire son poème aux autres membres et aux joueurs de conga. Si Elijah ne jouait pas de la conga pendant que vous étiez en train de lire le poème, vous pouviez aussi bien le mettre à la poubelle. Je pense que Elijah ne connaissait rien aux allitérations, aux métaphores ou à toutes les figures poétiques. Il y avait une chose qu'il connaissait, c'était le sentiment, le ressenti et le son. Et si ça ne sonnait pas juste à ses oreilles, s'il ne le sentait pas, il ne regardait même pas sa conga. J'ai eu cette expérience, j'ai écrit un poème qui s'appelait Get Hip. Je me souviens encore du titre. Je l'ai tapé sur la machine à écrire de mon grand-père, une Remington. Et je pensais vraiment être en train de faire quelque chose de bien. Et c'était deux pages sur l'endroit où j'avais grandi, dans le Queens. C'était ce quartier de classe moyenne qui était devenu classe moyenne. Et donc j'étais en train de critiquer ce quartier. J'étais vraiment très féroce. Et je suis montée sur scène, j'ai fait ce poème, je l'ai dit avec toute ma voix, toute mon âme, mes muscles. Et Elijah a laissé ses percussions dans son sac, de sport. Et il n'y a même pas jeté un œil, il ne les a pas sortis. Et on était très proches, donc je lui demandais quel problème. Et j'étais vraiment brisée de voir sa réaction. Et il m'a dit, non mais tu ne peux pas lire une merde pareille sur scène. C'est juste des conneries sur les gens avec qui tu as grandi. Et j'avais envie de lui mettre mon poing dans la figure. Parce que si quelqu'un comme ça critique un poème que vous avez fait, c'est un affront extrêmement personnel. Parce que vous prenez du temps, vous y mettez toute votre âme. Et quelqu'un vient vous dire que c'est assez bon pour les ordures. Mais j'ai relu le poème plusieurs fois et j'ai réalisé qu'il avait raison. Oumar Bin Hassan.
On ne se rend pas compte de l'importance du rôle du percussionniste. Ce qui compte, c'est le son. Nous, le poème vient de nous. Et puis, le percussionniste essaye de s'adapter, essaye de mettre en lumière les paroles. Mais aujourd'hui, on a Don Babatunde, percussionniste incroyable, batteur incroyable. Et quand on était en 99, on s'est dit qu'il faut un bon joueur de conga. Moi, j'avais travaillé avec d'autres percussionnistes.
Jalal, Suleiman.
Et à l'époque,
ils avaient un groupe. Comment il s'appelait ce groupe?
Musical director.
Bon, bref, les Last Poets, on avait un directeur musical même, c'est vous dire. Donc, bref, on fait le concert. Notre directeur musical a dit, non, mais ça ne marche pas, ça.
And then I'm going to try to go and talk to Doon and tell him that, you know, I know another drummer.
On s'est rendu compte que ça n'allait pas du point de vue des percussions, qu'il fallait trouver un autre batteur percussionniste.
I'm trying to be real gentle and real serious and
donc,
tell him about this part, because we know what drummers meant to us.
Moi, je vais parler à notre batteur, à notre percussionniste, et avec un peu de diplomatie et de tact, j'essaie de lui expliquer que ça allait pas, et je lui dis que ça allait pas. Et donc, je dis, moi, je connais un autre gars qui s'appelle Don. Tu connais Don Hayden?
Oui. Ah,
ben, il se connaissait. Donc, celui que je voulais recruter, il le connaissait aussi. Et c'est quelqu'un qui avait une grande expérience. Et je dois dire qu'avec Last Poets, il a joué un rôle génial.
En fait, nous avons des conflits aussi entre nous.
Scorpion
et Poisson.
Et donc, on va
se battre. Et régulièrement, en général, le premier conflit est sur le percussionniste. Mais là, il parlait du même, en fait, que moi.
He's a balancer.
On avait
le
même
nom.
Baba Tunde est quelqu'un qui nous garde en permanence dans un tempo, dans un rythme. On a besoin que ce soit dansant. Et on se disait qu'on allait vraiment être en guerre sur ce sujet.
Et c'est lui qui nous a séparés.
Et il a donné un coup de poing sur la table et il nous a arrêtés tout net.
Et puis du coup, on ne s'est jamais disputé depuis là. Parce que lui, il était vraiment en colère. Il nous disait, mais pourquoi vous vous disputez, les gars? Ça va pas du tout. Donc on voulait se reformer. Et puis on n'était pas d'accord. Et puis c'est lui qui nous a séparés, qui nous a mis d'accord.
Il est vraiment le cœur battant du groupe. Et ça rend les choses très... Ce qui enrichit encore les choses pour nous aujourd'hui, c'est qu'il écrit les poèmes aussi. Et c'est un très bon poète. Et il écrit maintenant, et en fait, le prochain album qu'on fera, je suggère d'ailleurs que ce soit lui aussi qui lise certains de ses textes. Je pense qu'il est temps.
On l'a déjà laissé parler, chanter sur scène.
Il a fait quelque chose effectivement déjà sur une chanson.
Black as you, black as me, black as us, black as me. Black as me,
black as me, black as us, black as me. Black as us. Black is free, black is me, black is us, black is free. Black is you, black is me, black is us, black is free. Black is me, black is me, black is us, black is free. Black is us, black is me, black is us, black is free. Black is free, black is me, black is us, black is free. Black is you, black is me, black is us, black is free. Black is me, black is me, black is us, black is free. Black is us.
C'est bien qu'on parle de lui avec et parce que ça fait 15 ans qu'on retravaille ensemble. Parce que avec Nelija, à nos débuts, c'était extraordinaire. Et puis on s'est dit qu'on n'allait pas pouvoir retrouver la même chose, mais on retrouve des gens formidables avec qui on travaille aujourd'hui. Alors, il y a eu tous les soucis qu'on a eu dans le passé, ensemble, les allées, les venues, et ainsi de suite, mais tous les deux, on a essayé de le faire pour revenir, et puis... Et puis il y a eu un peu trop de religion dans ses propos et tout, ça s'est pas toujours très bien passé, on n'était pas tout à fait en phase. Donc moi j'ai voulu arrêter. Et puis, lorsqu'il est mort il y a environ deux ans,
ben,
c'était une situation où moi je me disais mais quel gâchis, parce que
j'ai peut-être dire de qui il s'agit peut-être.
Jalal Mansour Nordine.
Jalal Mansour Nordine. Sur le premier album, il s'appelait Alafia Poudine, mais son nom a changé parce qu'il est devenu musulman. Et il s'est fait nommer, en fait, à ce moment-là, à peu près au même moment qu'Omar a reçu son propre nom. Et sur scène, comme dans la vie, Jalal était l'influence la plus puissante qu'il y ait eu sur le monde du hip-hop, plus que nous, en fait. Parce que le moindre des poèmes qu'il a écrit rimait. Tous ses poèmes, il n'écrivait jamais en prose. Tous ses poèmes avaient une rime.
Hated him.
They et Garland King le détestait.
Ils
se détestaient. Il y avait cette histoire aussi de peau claire, peau foncée.
Oui, ils étaient constamment en train de se chamailler, de se disputer, de se battre même. Ils n'avaient pas la même couleur de peau, ils étaient tous les deux noirs, mais c'est sans doute à cause de ça qu'ils ne s'entendaient pas.
Et puis,
il me disait tout le temps, il venait toujours à East Wind, là où on était basé, à notre QG, et il était tout le temps saturé de poésie, en fait, parce qu'il mémorisait énormément de poèmes. Et donc, quand il venait nous voir, il nous disait, mais débarrassez-moi de ces saloperies de comptines. Parce qu'il n'aimait pas ce style-là. Parce que Kane ne croyait pas qu'il fallait rimer pour être un bon poète, alors que Jalal, lui, ses rimes avaient énormément de sens, en fait. Je n'ai jamais entendu de rime qui soit médiocre ou qui soit pour rien. En fait, toutes ses rimes avaient toujours du sens. En fait, on a écrit un texte ensemble, mais d'ailleurs, c'est lui qui en a eu tout le crédit, qui s'appelle Jones Coming Down. On était dans une salle de shooting à Brooklyn. C'était un endroit où tous les gens allaient se droguer. Je pensais que c'était des drogués, ces gens.
Ah, je ne sais pas exactement de quoi il s'agissait, moi, là, quand j'étais.
Et c'est Jalal qui a dit qu'on devrait d'ailleurs se renseigner. Il a dit, qu'est-ce qui tue notre peuple? J'ai répondu, tu peux dire à part... les flics, la drogue. Et donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on se renseigne sur cette question de la drogue. Et donc, on connaissait ce lieu à Brooklyn, cette salle de shoot, et j'y voyais entrer des hommes, des femmes qui venaient s'injecter des drogues toute la nuit. Et le matin, Jalal a commencé un poème sur le chemin du retour. Ça a commencé avec une rime, et puis moi, je lui ai répondu, et John's Coming Down, et... C'est en fait un jour et une nuit dans la vie d'un drogué.
Mais
c'était un génie.
C'était
vraiment un génie. Et son œuvre, c'est comme ça qu'on le sait, c'est par l'œuvre.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci Oumar Bin Hassan et merci à vous Abou Dioum Oyewole et un grand merci Marguerite Capelle et Xavier Combe. Est-ce que vous avez envie de faire quelque chose, de faire juste un poème à deux voix ou quelque chose comme ça?
So that's the title of our newest CD.
Black is me, black is us.
Understand what black is.
Dans notre
so
CD,
I think that would probably be appropriate.
Il y a quelque chose qu'on va vous proposer là maintenant tous les deux. À la suite de ce qu'on a déjà entendu.
Oumar
connaît le contexte, donc on peut se lancer. On
okay.
Va.
Understand what black is. The title track me. To the last poet's you.
Understand
CD.
Me.
Understand
you.
Understand me.
Understand
you. Understand
me.
Understand.
Understand
what black is.
Understand me.
It is a source from which all things
understand
come.
Me. Understand
black
you.
Is not a
understand.
Color.
It is the basis of all colors. It is not a complexion. It is a reflection of all complexions called human. Understand what black is.
Understand you.
And from this blackness,
understand me.
Passion flows like a river. Song and dance and making you laugh are family members.
Understand
what black is. Feelings tell the truth.
Understand
what black is. The breath you breathe, the sweat on your brow, the tears and the cheers. Balancing the world on your head. Faith is the glue that holds us all together. Understand what black is. Not some horror story of lost souls drifting in a land of perversion. Blackness is love.
Understand.
Is a light shining on a path leading to the sun, or caressed in the bosom of the moon.
Understand
what black is. A power you must yield to. A force so strong you try to sleep it away. A jolt to your circuits that say you must be electric and plugged into the sockets of the world. Understand what black is.
Understand you.
Black is humanity. That beautiful chord on a 12-string guitar that brings comfort in times of pain. Warmth during turbulent times.
Understand
what black is.
You.
Black is humanity,
understand.
Making hope stand tall,
understand me.
And not will.
Understand
black
you.
Knows did it before,
me.
Been tried
understand
by fire,
you.
And washed
you.
In the waters of
understand
life.
You.
Understand what
me.
Black is.
You.
Black is hot.
Understand me.
Black is cool.
Understand you.
Black is wise.
Understand.
And can never
understand.
Be a fool. Black is
understand
hot.
Me.
Black is cool. Black
understand
is wise.
You.
And can never be a fool. Understand what black
me.
Is. Black is a hero.
Understand you.
Not a villain.
Understand me.
The essence
you.
Sealed with a
understand
kiss.
Me.
The stone
you.
You build your
understand
homes
me.
Upon.
Understand.
The shadow. At
understand.
Evening's mist,
understand.
Bigger than reality,
understand.
Blending in
understand.
With the night,
understand.
To let the sun chill,
understand me.
And watch
understand
the stars
you.
Dance,
understand me.
In music,
understand you.
To the rhythm,
understand me.
In our souls,
understand you.
Understand me, understand you. Understand me, understand you. Understand me,
understand you.
Understand.
All right, that'll be $50.
Thank you.
Au son, un immense bravo à Eric Boisset pour tout. Et à la réalisation, Lise-Marie Barré. Je redouble de merci à Jeanne Alléos, Romain de Bec de Lièvre, Anna Baron, Camille André et Marianne Chasseur qui m'aident à préparer cette émission tous les jours. Une très belle soirée à toutes et à tous et à demain.
When I heard Miss Nancy say, why do you treat your girl that way? I went down the alley for the night. Nancy and a man had just had a fight. He hit Miss Nancy across her head. And she rose to her feet, she said, you low-down alligator, just watch me sooner or later, gonna catch you with your britches down. You've used me and mistreated me, you drove around and beat me, till I'm gonna hang around. Black of both of my eyes, give it to another woman, come home and tell me lies. You low down alligator, just watch me sooner or later, gonna catch you with your britches down. I mean, catch you with your britches down. Thank you. alligator. Just watch me sooner or later. Gonna catch you with your britches down. You abuse me and mistreat me. You dog around and treat me. Said I'm gonna hang around. Take all my money, black up both of my eyes. Give it to another woman. Come home and tell me lies. You low down alligator. Just watch me sooner or later.